serez bienvenue dans cette émission clôture vendredi 27 mars à Bandundouville, dans la province d'Ikoulou, de la 13e conférence des gouverneurs des provinces de la RDC. Parmi les principales recommandations issues de ces assises qui ont duré 4 jours figure l'instauration des moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales. Les participants ont également proposé la régularisation des rémunérations des autorités politico-administratives, les réaménagements d'au moins 100 km des routes rurales par province, ainsi que la modernisation de certaines infrastructures aéroportuaires. Dans les secteurs agricoles, les participants ont également préconisé les rajeunissements de l'administration publique afin de redynamiser les filières de production. Que retenir des recommandations issues de cette 13e conférence de gouverneurs? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons ici au studio Jean-Robert Tshimanga, il est secrétaire général du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Bonsoir Monsieur Jean-Robert Tshimanga.
Bonsoir, c'est Jean-Louis Gobert.
Jean-Louis Gobert, merci beaucoup. Jean Bakomito Gambou, il est en ligne, c'est le gouverneur de la province du Haut-Uele. Bonsoir Monsieur le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Jean Bakomito Gambou, est-ce que vous êtes là? Et aussi en ligne, Soudi Kimputu Alimassi, il est avocat, il est expert en décentralisation. Bonsoir Maître Soudi Kimputu Alimassi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les gouverneurs ont présenté les réalités de leurs provinces respectives tout en proposant des pistes et des solutions face aux défis identifiés. Parmi les principales recommandations figurent l'instauration des moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales, la régularisation des rémunérations des autorités politico-administratives et les réaménagements d'au moins 5 km des routes rurales par province. On écoute un extrait du rapport général présenté par le vice Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, extrait choisi par Jean-Claude Tangamou de la RTBD.
Il a été mis en place la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. 1. Obtenir un moratoire sur les motions de défiance contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales, sauf en cas d'un rapport de contrôle suffisamment motivé de l'IGF, de la Cour des comptes, des cours et tribunaux, de l'Inspection générale de la territoriale, en vue de garantir la stabilité des institutions provinciales. 2. Garantir les sessions de formation continue des acteurs en province. 3. Mettre fin aux ingérences politiques dans la gestion de la province. 4. Renforcer les dispositifs de surveillance et de défense aux frontières. 5. Renforcer et opérationnaliser le programme national de lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre. 6. Opérationnaliser le PTDRCS et la RAD. 7. Organiser les opérations militaires conjointes dans les provinces du Haut-Katanga, du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Nord-Kivu, de l'Ituri, du Haut-Uele et de la Tshopo. 8. Renforcer et étendre le service national pour une meilleure prise en charge des jeunes désœuvrés. 9. Renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et les équiper. 10. Opérationnaliser les écoles nationales de la police à travers les provinces. 11. Régulariser la situation administrative des autorités coutumières. Et enfin 12. Prendre en charge les populations déplacées et créer un environnement protecteur dans leur milieu d'origine pour leur retour volontaire.
Jean-Rigobert Tshimanga, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et Sécurité. D'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 13e conférence des gouverneurs?
La 13e conférence, la 13e session de la conférence des gouverneurs de province était un cadre d'échange entre les gouvernements centrales et les gouvernements provinciaux qui avait pour but de discuter sur les politiques nationales et en lien avec les politiques provinciales. Et le thème qui a été prévu, vous le savez, c'était la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain. à cette ce qu'il faut retenir est que les gouverneurs ont échangé avec les ministères centraux, pratiquement avec le gouvernement central, sur les difficultés, les défis et les enjeux que connaissent les secteurs ruraux dans leur secteur, dans leur province respective, et ils ont fait un diagnostic général de la situation de la vie du monde rural, et ils ont tiré de points faibles de leur politique au niveau provincial, et ils ont trouvé les mécanismes pour que le gouvernement central puisse davantage appuyer ce secteur et permettre à la population de ces provinces de pouvoir se développer. Voilà le but principal pour lequel cette conférence a été organisée. C'est parce que, comme vous le savez, dans notre pays, plus de 80% de notre population vit dans les milieux ruraux, et le secteur du monde rural est un secteur qui regorge suffisamment de potentiel pour se développer. Et développer ce secteur, c'est apporter beaucoup plus d'avantages à une grande partie de la population. Voilà pourquoi ce secteur a fait l'objet d'une attention particulière lorsque le président de la République a décidé que ce sujet soit traité au cours de cette conférence pour harmoniser les politiques nationales avec les politiques publiques au niveau de chaque province. Voilà ce qui a été discuté au cours de ces assises.
Alors, il y a des recommandations, mais avant de formuler, n'est-ce pas, les nouvelles recommandations, est-ce que vous avez tenté d'évaluer les recommandations des différentes conférences, des précédentes conférences des gouverneurs, notamment la 12e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue au Lualaba?
Oui, vous avez suivi, avant d'arriver à la fin, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui est le rapporteur général de la conférence des gouverneurs, a fait lecture du rapport d'évaluation de cette 12e session qui s'était tenue à Colusi.
Et qu'est-ce qui a été dit?
Et il a été effectivement démontré que 5 de ces 55 recommandations ont été totalement réalisées, et que
5 des 55
parce qu'il y en a eu 55. À Colusi, il y a eu 55 recommandations, et 5 de ces 55 ont été réalisées. Ça représentait approximativement 9%.
Pourquoi ces faibles résultats?
Oui, parce que, en fait, d'abord la durée de réalisation entre la session de Colusi et celle d'aujourd'hui n'a permis que 7 ou 8 mois de réalisation. Vous pouvez comprendre que dans les 8 mois, c'était difficile de pouvoir réaliser toutes les recommandations qui étaient là. Et en plus, il y a des recommandations qui sont pluriannuelles. Par exemple, quand il s'agit de construire une route, il ne faut pas vous attendre à évaluer ça dans les 8 mois ou dans les 6 mois. Ce n'est pas une recommandation qui peut se réaliser en une année. Il y a des recommandations qui pouvaient bien se réaliser en une réunion ou à une lettre ou à une recommandation ou à une décision. Ce sont celles-là qui se sont vite réalisées, tandis que celles qui devraient prendre suffisamment de temps devrait normalement attendre courir le temps nécessaire pour être réalisé. En plus de ça, le budget de l'État n'était pas totalement dédié au mois de juin jusqu'au mois de mars de cette année pour être complètement engagé sur toutes ces recommandations. Il fallait aussi intégrer ces recommandations dans les budgets pour qu'elles soient exécutées. Donc il y a un ensemble d'exercices qu'il faut faire pour qu'une recommandation soit effectivement exécutée. Donc je peux vous dire que mais malgré cela, le rapport qui a été présenté a démontré que si on s'arrête simplement au taux de 5 sur 55, on aura mal vu les choses. Parce qu'il y a des recommandations qui sont en cours d'exécution. Même si c'est à faible réalisation, mais elles sont déjà en cours d'exécution.
Est-ce qu'il y aura un suivi pour voir si, effectivement, elles seront réalisées dans leur globalité?
Oui, mais vous pouvez déjà comprendre que 74% des recommandations ont été considérées comme étant entamé pour être réalisé. Donc ça veut déjà dire qu'il y a un effort consistant que le gouvernement a pu engager pour pouvoir réaliser. Déjà 74% des recommandations sont en cours d'exécution.
Voilà, parmi les recommandations issues de la 13e conférence des gouverneurs, il y a celle qui fait débat, c'est l'instauration de ces moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales. Monsieur le secrétaire général, qui va instaurer ces moratoires? C'est le gouvernement central ou ce sont plutôt les assemblées provinciales?
Avant de décider sur celui qui doit décider, vous devez comprendre que notre pays a connu une certaine instabilité au niveau de la base. Il est difficile, je peux vous donner un petit exemple, observez très bien, les provinces où les gouvernements provinciaux sont restés stables pendant de nombreuses années ont aussi manifesté dans leur gestion une certaine performance. Je vous donne un cas simple du gouverneur du gouvernement du Nord Kivu qui était dirigé par son Excellence Julien Paluku. Lorsqu'il était gouverneur, il est resté pendant plusieurs années. Observez, il y a eu des changements et il y a eu un progrès et il y a eu un développement parce que les institutions provinciales sont restées stables pendant une longue durée. Quand bien même c'était une province en guerre, mais c'est une province qui a manifesté un certain avancement dans son développement. Donc, ne pas soutenir la stabilité des institutions provinciales, c'est compromettre le développement des provinces. Voilà pourquoi le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a insisté à plusieurs reprises pour demander à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de pouvoir fournir un effort pour amener les gouverneurs et les assemblées provinciales à comprendre, à prendre conscience de la chose. Que ça ne veut pas dire qu'on refuse au gouvernement ou à l'assemblée provinciale son pouvoir de contrôler le gouvernement. Ce n'est pas ça exactement ce que ça veut dire, mais c'est plutôt une façon d'interpeller ces gouvernements, cette assemblée provinciale, à ne pas se laisser dans des manipulations inutiles où on peut du jour au lendemain se réveiller et dire bon, ce gouverneur doit partir alors qu'il a un programme qui peut permettre à la province d'avancer. C'est plutôt tenir compte des choses réelles, du développement réel de la province. Donc, considérez que son Excellence Monsieur le Président de la République est revenu plusieurs fois d'ailleurs dans son discours d'introduction comme dans son discours de clôture de la 13e session de la conférence pour montrer que l'instabilité au niveau des provinces est compromet totalement.
Et qui va instaurer ces moratoires?
Alors, ces moratoires, comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déjà à plusieurs reprises réuni ici les assemblées, ici à Kinshasa, les présidents des assemblées, les bureaux des assemblées et les gouverneurs. Il les a fait réfléchir. Je peux vous dire qu'il y a des provinces qui ont déjà compris parce que cette recommandation a été formulée depuis l'année passée, d'ailleurs. Je peux vous informer qu'il y a 7 de ces provinces qui ont intégré ça dans les édits provinciaux pour dire nous ne pouvons pas déstabiliser nos provinces.
Ah, donc ce serait une initiative des assemblées provinciales.
De toutes les façons, c'est la province qui, c'est au niveau provincial que le pouvoir de destituer un gouverneur a été confié par la Constitution. Donc, on fait porter cette responsabilité à ces grands électeurs qui doivent savoir qu'ils ne doivent pas déstabiliser les institutions. Et aussi bien, on interpelle en même temps les gouverneurs qui ne doivent pas manipuler les députés pour pouvoir déstabiliser aussi les bureaux des assemblées. Parce que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre de tous ces acteurs au niveau provincial.
Mais pour beaucoup d'analystes, cette décision viole à beaucoup de points de vue les textes légaux relatifs, n'est-ce pas, à la gestion des provinces. Et ces analystes estiment que cela pourrait créer un précédent fâcheux. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire dans ces cadres. Dire que ce sont des analystes, les analystes font des analyses, mais le problème, la gestion à ces méthodes et la gestion à ces réalités, la finalité que l'on veut, c'est la stabilité des institutions. Et cette stabilité...
Et à cet effet, on peut même violer certains textes des lois, ça ne poserait aucun problème.
Il ne s'agit pas ici de violer. Il s'agit plutôt de donner la conscience à tous ceux qui prennent leurs décisions, de les prendre en âme et conscience, de comprendre qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas gérer la province comme si on jouait avec un jouet. Ça doit être quelque chose de précieux. On doit comprendre que c'est la vie de la population qui doit être prise en considération.
Merci. Jean Bakomito Gambou, est-ce que vous êtes là?
Bien, je suis là, je suis au centre.
Voilà.
Bonsoir,
on n'a pas eu l'occasion de saluer au début de l'émission.
Oui, merci, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous-même ainsi qu'au secrétaire général que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt.
Voilà, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Haut-Uele. Certains observateurs pensent que la tenue de ces différentes conférences des gouverneurs est devenue une simple routine. Étant donné que ce sont des assises, n'est-ce pas, selon ces observateurs, qui ne produisent aucun résultat pour les provinces.
Je ne pense pas que c'est le cas, parce que prenons l'exemple de la 12e session, un accent particulier avait été mis sur le secteur de la santé, notamment sur la question de VIH, avec un point sur le VIH pédiatrique. Nous, dans la province du Haut-Uele, juste après, nous avons travaillé sur la question, parce que les taux de prévalence est de 7,2%, le plus élevé de la République. Nous avons aligné comme ça pour l'année 2026 15% de notre budget pour la lutte contre le VIH de manière générale et 5% pour le VIH pédiatrique. Et avec ça, nous attendons répondre très efficacement à cette crise, si je peux appeler, ou à cette forme de guerre qui essaie de décimer notre jeunesse. Mais cette fois-ci, nous revenons sur la question de l'agriculture, qui est une question essentielle pour le développement de notre. La province, à l'époque, était une province agricole, la capitale de l'or vert. Jusqu'au fin fond, les paysans avaient des revenus. Mais avec le temps, nous l'avons perdu, cette culture, et la pauvreté, on peut la sentir. Les mines ne bénéficient qu'à une poignée de personnes. Et donc, avec les débats que nous avons eus, nous avons entendu les uns et les autres, les ministères de l'Agriculture et bien d'autres ministères et même d'autres collègues des autres provinces, ça nous permet de recadrer un tout petit peu notre politique en matière agricole et de suivre la vision du chef de l'État.
Voilà.
L'année passée, nous avons pu faire 400 hectares de cultures pérennes pour le compte de la province, café, cacao. Et cette année, nous sommes en train de nous préparer à aller à plus ou moins 1 1500 pour faire 2000. Et nous allons également amener le ZTD, les 46 ETD chez Ferrier Secteur, ainsi que les groupements 361 en faire de même. Comme nous, au niveau de la province,
oui,
5 hectares et 10 hectares.
Monsieur le gouverneur, s'il faut revenir aux recommandations issues de la 13e session, n'est-ce pas, de la conférence des gouverneurs, il y a ces moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent, gouverneur, de viser à travers ces moratoires à empêcher aux députés provinciaux ou aux assemblées provinciales d'accomplir l'une de leurs tâches, celle qui consiste à contrôler l'exécutif provincial.
D'abord, il faut dire que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il estime que il y a une déstabilisation au niveau des provinces, il a la latitude de prendre des mesures ou de donner des lignes de conduite à suivre pour que les provinces soient stables. Deuxièmement, il faut tenir compte du contexte sécuritaire lié notamment à l'agression du pays par l'FCM23 et leur parrain, le Rwanda. Et troisièmement, il faut dire que généralement, de manière générale, ce qui se passe dans les provinces, c'est une guerre autour des intérêts particuliers et non des intérêts de la population, comme le CG l'a dit, ou les intérêts de la province. Fort de cela, que la haute hiérarchie a levé le ton et a donné une directive à suivre. Maintenant, ceux qui disent que c'est une façon de bloquer le contrôle ou de bloquer l'Assemblée provinciale à ne pas faire leur travail, permettez-moi de dire qu'ils n'ont pas totalement, ils n'ont pas raison. C'est une question de voir l'approche ou de comprendre la démarche. Et c'est déjà essayé de le dire d'ailleurs. Les moratoires n'est pas un chèque à blanc qui est devenu au gouverneur. D'ailleurs, dans la recommandation, il est bien dit que les contrôles IGF, la Cour de compte et bien d'autres structures, et même là, s'il y a un contrôle qui est objectif, il peut toujours donner lieu à des procédures qui peuvent aller au-delà. Mais bien entendu, il n'y a pas que les gouvernements, l'Assemblée provinciale qui peut faire tomber un gouverneur. Les gouverneurs peuvent aussi manipuler pour faire tomber les bureaux d'ensemble. Donc, c'est un appel à la responsabilité de toutes les deux institutions.
Mais il faut
D'abord l'intérêt de la province en avant.
Voilà, mais il faut
le contrôle reste le contrôle, il est légal.
Voilà, il faut avouer que cette décision doit vous arranger, vous, gouverneur, ainsi que les bureaux des assemblées provinciales, n'est-ce pas?
Non, parce que, non, pas nécessairement. Ça arrange, c'est au bénéfice de la province, de la population. Parce que, entre-temps, nous, par exemple, dans le Haut-Touélé, tenez, nous avons fait venir sur notre invitation l'inspection générale des finances, qui a passé 3 mois avec nous et qui va encore revenir. Donc, la Cour de compte, nous envoyons tout ce que nous faisons. Et nous avons des contrôles du ministère des Finances, au niveau central. Nous avons les contrôles de l'Assemblée provinciale. C'est le mois de mars. C'est moi ici, la session de contrôle. Donc, les contrôles restent. On n'a pas interdit les contrôles. Simplement, s'agissant des motions qui ont pour objet des permettre aux uns aux autres de se régler des comptes, de défendre des intérêts, des fois personnels, au détriment des intérêts de la province, ce qui est interdit.
Monsieur le gouverneur, voilà. Monsieur le gouverneur Bakomito, on a aussi l'impression que les gouverneurs ont abandonné, n'est-ce pas, leurs droits, leurs reconnus, n'est-ce pas, par la Constitution, celui de la retenue à la source des 40%. Et parce que depuis un certain moment, hein, les gouverneurs ne réclament jamais ces droits-là. Et donc vous avez abandonné ça et vous ne voulez plus jurer ça alors que cela est consacré par la Constitution.
Oui, c'est un problème majeur qu'il faut régler, ça c'est vrai. Mais actuellement, nous tenons compte du contexte. Le pays traverse depuis un temps un moment très difficile. Il faut être réaliste. Ce que nous réclamons d'abord, c'est que les recommandations ici de la 12e conférence des gouverneurs et qui ont été reconduites cette année soient appliquées. Et voir en fait avec la fin de la guerre, avec les efforts qui sont faits par le chef de l'État pour mettre fin à cette guerre, comment revenir à d'autres recommandations. Et là, nous serons dont il y aura la possibilité de les appliquer. Ça ne sert à rien de réclamer en sachant que la situation est difficile et la priorité actuelle, c'est mettre fin à la guerre, avec toutes les conséquences que cela entraîne.
Est-ce que...
C'est juste à ce que cela qu'il s'agit.
Oui, oui, c'est vrai qu'il faut être réaliste, mais est-ce que la rétrocession vous arrange? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette...
Si elle est régulière, si elle est régulière et dans une fourchette telle que nous l'avons proposée, je crois qu'elle peut arranger jusqu'à la fin de la guerre et que la trésorerie soit encore disponible pour régler toutes les questions, les autres questions liées au développement, à l'investissement, aux investissements et autres.
Est-ce qu'elle est régulière, cette rétrocession?
Non, elle n'est pas régulière. C'est ainsi que, lors de la conférence, nous sommes revenus sur le fait qu'elle est irrégulière. Elle ne vient presque pas. Et donc, il faut réactiver, que ce soit automatique. Heureusement que le président de la République a dit dans son message de clôture que ces recommandations ne devaient pas rester comme de simples documents à mettre dans les tiroirs.
Merci, Soudi Kimputu Alimassi. Vous êtes avocat, vous êtes expert en décentralisation. Vous également, comment vous évaluez la mise en application des recommandations, notamment celles issues, n'est-ce pas, de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue au Lualaba?
Merci beaucoup. Je crois que je dois commencer par féliciter la régularité des conférences de gouverneurs, mon expert en décentralisation.
Maître Kassoudi, vous avez activé les mots de main libre?
Et je...
Vous nous parlez normalement. Essayez de désactiver ces mots.
Oui, je disais... je voudrais d'abord féliciter la régularité de la tenue des conférences de gouverneurs, ce qui est, depuis le lancement du processus de mise en œuvre de la décentralisation, c'est une période où on voit que cette grande réunion, cette importante réunion s'est tenue de manière régulière. Et si ça peut aller tel que la loi organique l'exige, deux fois l'an, ça peut être une très bonne chose. Deuxièmement, nous restons toujours inquiets sur le plan de la forme et du fond de la tenue de cette conférence de gouvernement. Sur le plan de la forme, c'est la procédure utilisée, et sur le plan du fond, c'est le rendement de ces différentes conférences de gouverneurs qui sont tenues. Au plan de la forme, je voudrais évoquer ici sa composition. C'est une dérive qui a commencé depuis le régime passé. On a élargi cette conférence à des personnes non habilitées à y être. L'article 2 de la loi organique rappelle la composition de manière exhaustive. Et il est clairement dit que la conférence des gouverneurs est composée du président de la République, du premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des gouverneurs de province. Et in fine, cet article prévoit que tout autre membre du gouvernement peut y être invité. C'est un invité. Les autres membres du gouvernement sont des invités. Et pour une question spécifique qui concerne cette question... Et il y a un secrétariat technique, etc. Il y a un secrétariat permanent pour cette question. Le deuxième problème, c'est l'objet. Aujourd'hui, on donne l'impression comme si c'était une réunion d'évaluation du fonctionnement des provinces. Ce n'est pas ça l'esprit de la loi organique. Il est dit ici que c'est une instance de concertation, parce qu'il n'y a pas normalement de tutelle du pouvoir central sur les provinces, mais il y a la tutelle du pouvoir central sur le gouverneur de province dans les matières à compétence exclusive du pouvoir central pour lesquelles il est le représentant du pouvoir central en province. Et donc ici, plutôt que l'on revienne sur la constitution des thématiques ainsi de suite, la loi organique ne dit pas cela. L'article 13 prévoit que les gouverneurs de province y viennent ici une réunion de travail entre l'exécutif national coordonné représenté par le président de la République et les exécutifs provinciaux, les gestionnaires. Et dans l'esprit de l'article 13, les gouverneurs, dans chaque conférence des gouverneurs, doivent faire les rapports, présenter, faire l'état des lieux de leur province et relever les difficultés. Ici, on fait allusion aux matières à compétences exclusives des provinces, les matières à compétences exclusives du pouvoir central et les matières à compétences concurrentes. Mais là, le gouverneur de province qui dresse l'état des lieux, il va dire par exemple au président de la République que dans le cadre de l'exécution des matières à compétences exclusives du pouvoir central pour lesquelles nos provinces ne sont pas compétentes, voici les difficultés que j'ai. Et là, le ministre concerné ou le secteur concerné pourra être invité et pour qu'il prenne une politique à édicter pour faciliter la mise en œuvre au niveau de la province.
Les choses ne se passent pas de cette manière-là?
Ça ne se passe pas comme ça, à moins que l'on me dise le contraire. Vous voyez. Et donc, vous allez voir tout de suite que la conséquence est que, bon, il y a des sujets qui sont abordés qui n'ont rien à voir avec cet aspect des choses. Je donne un exemple. Vous venez de parler de la question de l'instauration du moratoire. Qu'est-ce que ça a fait avec les fonctionnaires de la conférence du gouvernement? Ça, c'est une question qui relève pratiquement de notre politique, ainsi de suite. Je veux prendre, par exemple, la question des routes et des dessertes agricoles. C'est une matière qui doit relever digne des compétences. Est-ce que c'est une matière du pouvoir central? Est-ce que c'est une matière des provinces? Ou c'est une matière à compétences concurrentes? La discussion de cette question dans une conférence de gouverneurs, ça doit relever de la difficulté que la partie qui a cette compétence a rencontrée dans la mise en œuvre et qui ait une politique de mise en œuvre. Donc, la conférence de gouverneurs aujourd'hui donne l'impression que les provinces veulent faire porter au pouvoir central les missions qui sont les leurs. Le pouvoir central donne l'impression de faire l'évaluation du fonctionnement des provinces alors qu'il n'en a pas ces compétences. Cette compétence relève au niveau des assemblées provinciales. Et c'est ça la grande difficulté, comme expert en matière de décentralisation, que nous rencontrons sur le plan du fond et de la forme du fonctionnement de la conférence des gouvernements.
Voilà.
Deuxièmement,
Allez-y.
Si nous allons maintenant dans le sens de ce qui s'est fait actuellement, je viens de suivre M. le secrétaire général qui dit par exemple qu'il y a 5 recommandations. Encore que je ne suis pas d'accord qu'on parle des recommandations parce que la conférence des gouverneurs ne peut et n'est assortie que des avis. Il n'y a pas de recommandations à faire parce que ces avis-là, ce sont les éléments que chaque parti peut tirer en termes de conséquences pour aller dicter une politique. Mais 5 recommandations sont réalisées sur 55. Et là, nous risquons de dire que les outputs de la conférence des gouverneurs ne justifient pas la régularité de la tenue de ces réunions. Et moi, je relève la difficulté, c'est que la manière dont les sujets sont abordés, effectivement, vont nous ramener toujours à ces résultats de moins d'exécution de ces recommandations, parce que ce sont des matières qui relèvent de 3 compétences. On ne sait pas qui fait quoi dans ces matières, et chaque parti va faire porter le chapeau à l'autre.
Il a précisé, M. le directeur général a précisé que 5 dans leur globalité, n'est-ce pas? Mais il y a environ 70 recommandations qui sont en cours de réalisation.
Mais comme expert, je me dis,
c'est 70%
des relèvent de quelles compétences? Parce qu'on devait dire, par exemple, que le pouvoir central avait fait telle recommandation au niveau des provinces, encore que les recommandations ne peuvent pas être communes. Parce que là où les routes des réserves agricoles ne sont pas faites, par exemple, dans une province, peuvent l'être dans l'autre. Voilà pourquoi, dans une conférence de gouverneurs, c'est chaque province qui présente son état des lieux et pose le problème et les difficultés dans son fonctionnement. Il y a des provinces qui peuvent être avancées par rapport aux autres. Il n'y a pas de sujet automatiquement commun et les difficultés communes au même moment.
Voilà, et s'il faut revenir aux recommandations issues de cette récente conférence, donc la 13e session, comment vous comprenez les recommandations, notamment celle d'instauration de ces moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales?
Si m'était demandé de donner conseil comme expert à ma République, j'aurais souhaité que ce genre de sujet ne soit pas débattu dans une conférence des gouverneurs. Parce que vous pouvez trouver, par exemple, une province où les députés provinciaux s'en tiennent à la Constitution et à la loi. Cette recommandation ne peut produire aucun effet. Parce que c'est une demande que le politique peut faire à une institution provinciale qui a reçu mission de la Constitution et de la loi. Et donc, si on en fait une recommandation d'une conférence de gouvernement, vous voyez tout de suite qu'il y a une difficulté de l'application, là où il y a des gens qui s'en tiennent au texte.
Oui, mais l'initiative, il a aussi précisé, il a aussi précisé que l'initiative, l'initiative d'instaurer ces moratoires, l'initiative appartient aux députés provinciaux.
Le mot moratoire, si c'est question vitale de fonctionnement des institutions provinciales, moi je me réserve comme expert. Parce que on veut paralyser un contrôle. Même s'il y a la corruption qui règne, ainsi de suite, dans notre pays, mais je crois que prendre un moratoire dans ce secteur, c'est mettre notre pays en difficulté. Je crois que le gouverneur a essayé d'évoquer un peu les difficultés qu'il y a de part et d'autre. Mais moi, je pense que ce genre de questions ne devraient pas faire l'objet de la conférence des gouverneurs pour en faire une recommandation comme moratoire sur des questions vitales de fonctionnement des institutions provinciales.
Merci. Nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour s'exprimer par rapport à la thématique. Monsieur Jean-Rigobert Chimanga, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu. C'est Jules Maguené.
Je suis Jules Maguené depuis Bukavu. Ces mêmes acteurs ont déjà promis sous d'autres cieux et alors d'autres conférences la même chose. Je pense que la déstabilisation des institutions provinciales ont été promises à maintes reprises, mais les mentions de défiance restent une arme politique de déstabilisation utilisée par Kinshasa et les acteurs locaux selon les calculs du moment. Les grandes promesses routières ont été faites à deux moments clés. En décembre 2020, lors du discours à la nation et en décembre 2025 devant les congrès. Elle portait respectivement sur 38 000 km de routes de dessertes agricoles et 11 423 km de routes prioritaires en 2024, puis sur 3 735 km de routes stabilisées à réaliser en 2026. Depuis 2025, je voulais qu'un membre du gouvernement nous donne le nombre de kilomètres déjà réhabilités.
Monsieur Jean-Rigobert Chimanga.
Oui, je pense que les routes sont réhabilitées. Il y a plusieurs structures qui font des routes. Notre ami qui pose la question devrait bien se renseigner. Il y a des routes nationales qui sont en construction aujourd'hui. Il y a des routes de voirie qui sont aussi en construction. Et il y a des routes de dessertes agricoles qui sont en construction. S'il peut rassembler toutes ces routes, je crois qu'il peut bien comprendre que beaucoup de choses sont en train de se faire. Quant à savoir le nombre de kilomètres, comme je n'ai pas amené les statistiques, je ne sais pas du tout vous lui dire avec précision combien de kilomètres sont réalisés. Mais il y a des routes qui sont en train de se construire. Ici à Kinshasa, il y a des routes de voirie qui sont en train de se construire. Dans toutes les villes d'ailleurs, vous le savez. Il y a des routes de dessertes agricoles, il y a toute une direction de routes de voirie qui est en train de faire. Même avec l'appui de certains partenaires internationaux, on est en train de construire certaines routes de voirie, des routes de dessertes agricoles et les routes nationales. Si on peut faire...
Et pourquoi le développement du secteur agricole ne suit pas?
Dans le secteur agricole, nous avons fait un diagnostic au cours de la conférence de gouverneurs. Il a été établi qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont entreprises sur terrain. Mais le problème, c'est la coordination de toutes ces initiatives. Il y a même des partenaires qui viennent, qui appuient. chacun appuie de son côté, chacun appuie. Il y a un problème de coordination que son Excellence Monsieur le Ministre de l'Agriculture est en train de faire pour permettre à ce que tout le monde suive au moins la ligne de conduite qui est mise en place. Donc c'est déjà un travail qui est en train de se faire et les recommandations qui ont été formulées vont davantage dans le sens de canaliser tous ces efforts vers un développement intégré.
Et comment vous réagissez au propos de l'expert Soudi Kimputu Alimasi par rapport à la forme et au fond, par rapport, n'est-ce pas, à l'organisation de ces assises et des différentes conférences des gouverneurs?
Je sais que l'expert a dit des choses vraies, dans le sens qu'il y a deux choses très importantes qu'il faut retenir dans les contenus même de la conférence. C'est les états des lieux que chaque gouverneur a présenté. Je crois que s'il était devant son petit écran, il a vu que chaque gouverneur est passé présentant son état des lieux. Et il y a un autre problème, c'est que les contenus même du thème qui a été donné a aussi été discuté, parce que aujourd'hui les questions de l'agriculture font partie des problèmes exclusifs à tout, aux compétences.
Rien n'a été imposé aux provinces par les gouvernements provinciaux.
Au contraire, c'est plutôt les provinces qui sollicitent l'appui du gouvernement central pour améliorer. Donc, je pense que s'il était présent dans les assises, il aurait peut-être eu une autre lecture de la chose.
Merci, monsieur le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani. Dans la Tchopo, c'est Blaise Saïdi à Toubou.
Merci, cher journaliste, de m'avoir associé au débat d'aujourd'hui. J'appelle la partie de Kisangani, Blaise Saïdi à Toubou. La 13e conférence des gouverneurs à travers les moratoires sur les motions de défiance apparaît davantage comme une solution de façade qu'une réponse durable aux crises institutionnelles. En limitant les pouvoirs de contrôle des assemblées provinciales, cette mesure risque de fragiliser la démocratie locale et d'encourager une forme d'impunité politique. Au lieu de résoudre les causes profondes des conflits, notamment la mauvaise gouvernance et les rivalités politiques, ces moratoires pourraient simplement recorter les tensions, voire les aggraver à long terme. Pour combien de temps ces moratoires? Le gouvernement central ne cherche-t-il pas à renforcer son influence sur les provinces à travers cette décision? Ce moratoire ne constitue pas atteinte à la Constitution.
Jean Bakomito Gambou.
Merci beaucoup. C'est comme je l'avais dit, lorsque l'intérêt supérieur va dans le sens de pouvoir dicter une ligne de conduite, exemple du moratoire, je ne vois pas en quoi ça déstabiliserait ou ça violerait la Constitution. Non. Et les contrôles, la suspension des contrôles n'était pas à l'ordre du jour. Je dirais bien que les différents organes ou structures qui doivent intervenir pour les contrôles, que ce soit l'IGF, la Cour de compte, l'Assemblée ou les cours des tribunaux, ont la latitude de contrôler. Il a été dit nulle part que les contrôles sont suspendus. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Et le chef de l'État, dans ce mot, l'a dit, les contrôles sont légaux, il est même constitutionnel. Ce qui est déploré, c'est lorsqu'on l'utilise pour des fins politiques ou des rivalités politiques ou des intérêts personnels ou égoïstes qui mettent en mal les bons fonctionnements des institutions. Et en tant que garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions, à les présents ne pouvaient que lever les tons. Mais s'il faut voir l'objectif même poursuivi, c'est la responsabilisation des institutions ou des acteurs qui dirigent ces institutions. Il leur est demandé de mettre en avant l'intérêt supérieur de la province. Une province instable ne peut pas se développer. Une province instable, elle ne peut pas aller de l'avant. Le secrétaire général l'a dit. Il a donné l'exemple du Nord Kivu avec les gouverneurs Palou Kouassantan. C'est de cette stabilité qu'on a besoin. Je l'ai dit lorsque j'ai pris la parole précédemment pour dire la majorité des conflits qu'il y a en province tourne autour des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, des calculs politiciens. C'est de ça qu'il s'agit. Et les garants du bon fonctionnement des institutions ne peuvent pas laisser faire. Il rappelle à l'ordre, il appelle les uns les autres à la responsabilité, parce qu'il doit défendre les intérêts du pays, des provinces et de sa population. Voilà de quoi il s'agit.
Merci.
Mais les contrôles restent. L'IGF doit faire son travail. Le moratoire n'est pas un chèque à blanc.
Voilà.
Non, que... donner au gouverneur ou... Non.
Oui, est-ce que vous avez mot par rapport à l'intervention de l'expert en décentralisation Soudi Kimputu Alimasi qui a parlé
bien sûr de
la forme et du fond, des, n'est-ce pas?
Bien sûr, sur le plan de la forme, hein, sur le plan de la forme, je ne crois pas qu'il ait raison. Dans la mesure où tous les autres, à part les personnes qu'il a citées comme membres de la conférence du gouverneur, tous les autres sont venus comme des invités. Ils n'avaient pas droit au vote. Certains ont intervenu comme des experts sur des sujets bien définis, mais ils ne sont pas membres, ils n'ont pas voté. Et même dans les ateliers, c'est nous qui avions pris part et c'est nous qui décidions. Et même la matière, vous avez dit tout à l'heure s'il faut aller dans la matière, est-ce que la matière est imposée? Je dis non, nos experts ont travaillé sur la question. Bien avant, 2-3 mois, des experts sont revenus 2-3 fois à Kinshasa. Pour travailler, ils ont dégagé des documents de travail qui nous ont permis de pouvoir les valider et de travailler, de dégager des problèmes. Et les problèmes sont bien spécifiés. Il y a des problèmes qui sont communs dans nos recommandations, des problèmes qui sont communs. Nous mettons les problèmes, nous dégageons l'acteur ou la structure qui est chargée de suivi ou de trouver des solutions et nous faisons des observations s'il y en a.
Merci.
Et donc tout s'est fait avec professionnalisme. Et vous avez vu cette fois-ci, pour une première, en tout cas de ce côté-là, je dis merci au président de la République, et je les félicite même parce que nous avons suivi plusieurs conférences des gouverneurs. Les autorités provinciales n'ont jamais eu cette opportunité de faire un état des lieux de leurs provinces respectives. Mais cette fois-ci, au-delà de l'agenda chargé du chef de l'État, il a pris tout son temps pour écouter les gouverneurs. Chacun à relever la situation de sa province, un état des lieux, les difficultés, les défis. Et tout ça, ça a été fait.
Merci.
Et c'est un moment qui permet au gouverneur de changer sur des questions essentielles et de pouvoir tirer, pas simplement, on n'attend pas simplement qu'est-ce qu'on va nous donner, on revient avec combien on proche, mais ces débats déjà nous permettent d'améliorer nos politiques au niveau provincial, de l'harmoniser avec la politique au niveau central et trouver également des opportunités pour un développement de nos provinces.
Merci, Monsieur le Gouverneur Jean Bakomito. Nous allons donner la parole à Monsieur Soudi. Monsieur Soudi, Maître Soudi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa. C'est Maître Charles Kalonji, il est aussi avocat comme vous.
Maître Charles Kalonji, avocat depuis Kinshasa. Loin d'être un chapelet de bonnes intentions, ces recommandations traduisent les besoins réels des provinces. Mais il faut y aller selon les priorités car toutes les provinces n'ont pas les mêmes besoins. Cela permettrait au gouvernement d'y répondre avec efficacité aux défis car les routes en constituent les principaux défis. Quant au moratoire sur l'émotion, dès lors que c'est une violation flagrante à la Constitution, ça remet en question le contrôle parlementaire qui est l'une des missions des députés. Avec ça, l'exécutif et les députés joueront à une pièce de théâtre au risque et péril de la population car seuls vont se retrouver. À notre avis, sans perturber le fonctionnement orthodoxe, chacun pouvait exercer ses prérogatives dans le respect des règles et tirer des conséquences en cas de compromission. Merci.
Maître Soudi Kimputu Alimasi.
Oui, je pense que l'intervenant de tout à l'heure est revenu sur ce que j'ai dit. Tout part de la forme, et j'insiste, je viens de suivre Monsieur le gouverneur du Haut-Uele. Je pense que lui-même m'a donné raison en disant, pour la première fois, ils ont fait des états des lieux, et le chef de l'État, il est temps de les écouter. Donc, si je vais lui répondre comme expert, je lui dis, donc, ça sera pour la première fois que l'objet de la conférence des gouverneurs a été respecté. Parce que ce sont les prescrits de l'article 13 de la loi organique 08-015 17 octobre 2008 sur la conférence des gouverneurs. Ici, il est question que chaque gouverneur, à chaque conférence des gouverneurs, commence par présenter les états des lieux. C'est de ces états des lieux, et ça c'est l'alinéa 2, que les membres de la conférence formulent des avis et suggestions. Donc, il y a réellement un problème de fond et de fond. Et je crois que je ne déconseille pas la question d'aller vers les thématiques, parce que tout le monde va venir avec les questions de santé, ainsi de suite, alors qu'il y a d'autres problèmes urgents que l'intervenant de tout à l'heure a appelé priorité. Ça peut être la route au Touélé, mais par exemple, au Lualaba, ça peut être l'agriculture. Mais comment on va imposer au Touélé, à une conférence des gouverneurs, l'agriculture, alors que lui, là, le problème comme priorité, c'est la route qui est la première difficulté qu'il rencontre. Et on ne vient pas ici poser le problème de sa compétence pour que ce problème soit résolu par une autre institution. Non, peut-être solliciter de cette autre institution de lui venir en aide pour réaliser ce qu'il avait comme obligation de faire dans la matière de sa compétence exclusive. Je crois que les questions, elles sont techniques pour la conférence des gouverneurs. Et nous devons éviter de rester dans les superficiels.
Maître Soudi,
je reviens sur la question. Oui.
Oui, en fait, nous tendons vers la fin de l'émission. En plus, nous allons conclure. Hein. En plus de toutes ces initiatives qui sont prises, qui ont été prises, à votre avis, que faut-il faire pour rendre les provinces de la RDC viables à tous les égards?
Il y a d'abord une fuite des responsabilités du pouvoir central sur ce qu'il doit donner aux provinces et les lâcher pour que les provinces puissent évoluer vers leur développement. C'est la question de la retenir à la source des 40%. Et vous savez que dès lors, et là je me souviens, c'est puis un gouvernement du régime passé, où tous les projets d'investissement des provinces ont été bloqués et sont jusqu'à ce jour, à moins qu'on me dise le contraire, sont exécutés par le pouvoir central, alors que ça relève de l'essentiel de ce qu'on doit accorder comme retenue de 40% à la province. Alors, dès lors que la province sera en mesure d'avoir les moyens pour lui permettre d'initier ce projet d'investissement, on ne va plus chercher, au travers de la conférence des gouverneurs, de donner l'impression qu'on évaluait et qu'on prenait en charge le problème des provinces et qu'on veut les armées. Et les provinces se laissent aller, et vous avez évoqué ici, que les provinces ne réclament plus les 40%. Parce qu'ils sont tous entrés dans les jeux de venir dans les conférences de gouverneurs, présenter leurs projets de compétences exclusives. Et les pouvoirs centraux disent, voilà, on va voir ça, on va évaluer. Ce n'est pas ça l'objet de la conférence de gouverneurs.
Merci. Merci, Monsieur Jean Rigobert Chimanga. Vous allez aussi conclure. Hein. C'est quoi votre mot de la fin?
La conférence des gouverneurs, c'est un exercice très important, comme l'a si bien défini l'expert tout à l'heure. C'est un cadre de concertation de toutes ces politiques au niveau du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. C'est un cadre très très important qui permet de la responsabilisation de chaque organe de pouvoir jouer son rôle et de le faire bien pour l'intérêt de la population. Donc c'est vrai que les avis peuvent être donnés, mais ce qui est vrai, à travers ces cadres, on déniche beaucoup de difficultés et parmi lesquelles nous constatons qu'il y a certainement ces moratoires qui est un problème, même si on ne le dit pas clairement, mais c'est plutôt la manière de formuler ces moratoires qui crée trop de problèmes et déstabilise les institutions au niveau local.
Merci, Monsieur le Gouverneur Jean Bakoumito Gambou. Votre conclusion?
Je pense que la conférence de gouverneurs, comme on l'a dit, c'était un moment fort. Des assises permettent, comme le CG l'a dit, une bonne harmonisation entre le pouvoir central et les gouvernements provinciaux qui sont des prolongements de l'exécutif au niveau des provinces, de l'exécutif national au niveau des provinces. et les résolutions qui sont ici doivent simplement être appliquées. Et c'est le vœu même du président de la République et nous attendons beaucoup de cela. Mais en ce qui concerne le moratoire, comme je l'ai dit, l'appel à la responsabilité de tous les acteurs.
Merci.
Pour que le moratoire ne soit pas un chèque à blanc. Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur le secrétaire général Jean-Rigobert Chimanga, monsieur le gouverneur Jean-Bakomito Gambou et monsieur l'expert Soudi Kimputu Alimasi. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, mais aussi à Benjamin Moudoumbi et David Mungisa qui l'ont réalisé, et à André Mongou qui était à la technique, et Pierre Diassinois qui a assuré le live de cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci encore, et bonne suite de programme sur Radio Capi.